Le débat du jour. Aurélien Devernois.
Bonsoir à toutes et à tous. Plusieurs centaines de combattants du groupe État islamique se sont rendus ce jeudi aux forces démocratiques syriennes à Barouz, dernier territoire romain de l'organisation extrémiste. Au total, près de 60 000 personnes sont sorties ces dernières semaines de cette petite ville au bord du fleuve Euphrate, à quelques centaines de mètres à peine de la frontière irakienne. Une ultime opération de la coalition internationale pour faire disparaître le califat établi par le groupe État islamique depuis 5 ans à cheval sur la Syrie et l'Irak. Mais si ce projet politique, religieux et militaire vit en effet ces dernières heures, le groupe État islamique est lui bien loin d'avoir disparu, avec plusieurs dizaines de milliers de combattants qui seraient disséminés sur toute la planète. Et nous nous posons ce soir cette question: l'EI est-il plus facile à combattre sans territoire? C'est le thème du débat de RFI. Et pour tenter de répondre à cette question, avec nous ce soir, Pierre Puchot, écrivain et journaliste indépendant, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous sortez aujourd'hui même un nouvel ouvrage qui s'appelle « Islam et politique » aux éditions Perrin. Également avec nous ce soir dans nos studios, Arthur Quenet, docteur en sciences politiques, bonsoir.
Bonsoir.
Et vous êtes de votre côté l'auteur de « Syrie, anatomie d'une guerre civile » édité par les éditions du CNRS. Alors ce que je vous propose, c'est de commencer par aborder cette notion de combat contre l'État islamique par l'aspect militaire et antiterroriste, on va dire. On l'a entendu, Barouz est le dernier réduit du groupe. Cette ville est en train de céder peu à peu. Les forces démocratiques syriennes avancent mètre par mètre. Une fois cette étape achevée, comment va s'organiser la bataille contre l'État islamique? Pierre Puchot, je me tourne vers vous pour débuter.
Alors d'abord, c'est pas fini, hein, parce que là on est dans l'évacuation en fait des femmes et des enfants dans des conditions effroyables. C'est quand même ça l'actualité qui dure depuis des mois, hein, puisque plusieurs enfants meurent régulièrement, décembre, janvier, ça ne fait pas la une des journaux, mais c'est assez tragique. Les avocats des familles des victimes s'en sont émus. Pouvoir en France ne semble pas répondre. On est dans une sorte de gestion au cas par cas. C'est ce que dit Emmanuel Macron. C'est tout à fait scandaleux. C'est tout à fait tragique. C'est plusieurs milliers de personnes qui doivent affronter aujourd'hui dans le camp de Al-Hol des conditions effroyables, des épidémies, etc. C'est une vraie tragédie. Ça, c'est pour la situation actuelle. Pour ce qui est devant nous, une fois que l'évacuation des femmes et des enfants aura lieu, si elle peut avoir lieu jusqu'au bout, il y aura effectivement une attaque de front de cette ville de Barouz, qui ne résoudra pas grand-chose, de fait, puisque l'EI aujourd'hui est en Syrie, en train d'être défait en Syrie, mais l'EI est en Afghanistan, Pakistan, l'EI est en Libye, l'EI est en Égypte, l'EI est autour du lac Tchad, l'EI est disséminé aujourd'hui partout dans le monde, enfin dans plusieurs endroits du monde. C'est sa stratégie qu'il a anticipée depuis 2014. C'est la marque de l'État islamique aujourd'hui.
Oui, la franchisation finalement de la marque État islamique. Alors ils sont présents également aussi en Irak, puisque depuis des semaines, des mois déjà, il y a des attaques quasi quotidiennes, notamment dans les provinces de Ninive, de Kirkouk. Il y a vraiment, Arthur Quenet, en Irak déjà, on va dire, un changement de stratégie. Stratégie, hein, contrée forcée, hein, pour l'État islamique. Est-ce que en Syrie, la même chose risque de se passer? Le chercheur Michael Knight parle d'un califat de nuit qui va remplacer le califat de jour.
Les cas de l'Irak et la Syrie sont assez similaires. L'État islamique y suit la même stratégie, avec un décalage temporel, évidemment, selon la reconquête par les coalitions qui le combat. En Irak, l'État islamique est déjà passé à la phase retour à une phase de guérilla, construction de réseaux clandestins, qui lui permet de renforcer ses bases dans les foyers de population vulnérabilisés par le conflit. Alors que les villes sont plutôt bien tenues par l'État irakien, avec retour des services publics, baisse du nombre d'attentats dans les villes, les zones rurales sont largement délaissées. C'est le cas depuis 2003, ce qui avait permis à l'insurrection arabe sunnite de s'y développer. Actuellement, les zones rurales redeviennent les foyers de l'État islamique. L'État irakien y est très peu présent. Les conseils municipaux ne fonctionnent pas. L'action publique a du mal à y redémarrer. La police ne peut s'y aventurer sans le soutien de l'armée. Et c'est donc là, ces zones-là, que l'État islamique a choisi pour redéployer sa stratégie militaire de déstabilisation de l'État irakien.
Alors, déstabilisation de l'État irakien, de l'État syrien également, il y a une possibilité, parce que c'est vrai que la Syrie dispose de nombreux soutiens. Il y a la Russie, il y a l'Iran, il y a le Hezbollah venu du Liban. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État islamique peut aussi continuer à déstabiliser le régime de Damas qui essaie de reprendre pied peu à peu dans les différentes régions de Syrie ?
Tout à fait. Même avant de parler du régime de Damas, la ville de Deir ez-Zor, qui a été reprise l'année dernière par la coalition occidentalo-kurde, la ville de Deir ez-Zor a plus de 2 millions d'habitants actuellement, de fait des réfugiés qui fuient, des déplacés internes qui fuient la reconquête du régime syrien, qui ont fui les différentes poches reprises par le régime syrien sur l'insurrection. Deir ez-Zor a donc énormément de populations qui ne sont pas issues de la ville, qui vivent dans des conditions effroyables qui étaient décrites tout à l'heure, dans des camps, etc. Et population donc particulièrement vulnérable, d'où la marginalisation, la paupérisation est un foyer, crée un bassin de recrutement pour l'État islamique. L'État islamique a opéré ces derniers mois plus de 200 attaques réussites contre des checkpoints tenus par la nuit par les forces démocratiques syriennes. Actuellement, les forces démocratiques syriennes refusent de patrouiller la nuit dans certaines zones qui sont véritablement tenues par des militants de l'État islamique. Et l'État islamique attaque également, tente d'assassiner tous les notables locaux qui collaborent avec les forces démocratiques syriennes. C'était une façon de reprendre le contrôle du territoire, en tout cas de reprendre le contrôle des populations.
Alors justement, face à ça, Pierre Puchot, comment aujourd'hui, que ce soit les autorités syriennes, alors on l'a compris, c'est encore très divisé en Syrie, mais les autorités irakiennes, la coalition internationale, comment aujourd'hui faire face à finalement ce retour aux sources, j'ai envie de dire, de l'État islamique, puisque en effet l'État islamique avait commencé dans une stratégie de guérilla avant de créer son califat. Comment on fait pour réussir à répondre à ce défi sécuritaire?
Le problème, c'est qu'il y a deux niveaux. Le niveau premier, c'est la lutte au quotidien, qui est donc militaire, comme on parlait, contre l'État islamique et ses différentes factions qui prolifèrent aussi en Irak. De nouveau, ça a été très bien dit. Et puis, il y a un deuxième niveau, c'est de se rendre compte pourquoi, en fait, ils subsistent. Et pourquoi ils subsistent? C'est parce que tous les États, en fait, dans lesquels ils ont pris racine, les organisations qui ont fait allégeance, qui étaient considérables, comme Ansar Bayt el-Maqdis, par exemple, en Égypte, qui, on parle quand même de plusieurs milliers d'habitants, et bien, en fait, ces organisations, elles subsistent et parfois elles prolifèrent parce que les États eux-mêmes demeurent des États faillis. L'Égypte, aujourd'hui, c'est une dictature comme même sous Moubarak, on n'avait pas connu des développements pareils, 70 000 prisonniers politiques, un niveau sécuritaire tout à fait dégradé, une démographie galopante et dans le même temps un chômage monstre, un état absolument dans un état catastrophique. Le I prolifère sur cet état-là, sur un front qui est très important, le front du Sinaï. En Libye, le chaos institutionnel et politique qui, on a cru à un moment qu'il allait être plus ou moins résolu, ce n'est toujours pas le cas. Bon, voilà, l'État islamique continue de proliférer sur cette situation. En Afghanistan, à mesure que les talibans se renforcent, le I recule, il continue néanmoins à proférer des attentats. Voilà, ce sont des situations très complexes. Je ne parle même pas de l'Irak, qui est dans un état toujours difficile. À un moment, on parlait quand même, il y a quelques années, de partition potentielle de l'Irak. C'était très compliqué. On est vraiment dans des situations qui sont des situations locales et géopolitiques qui ne permettent pas, en fait, d'instaurer une confiance générale de la population vers son propre État. À partir de ce moment-là, l'État islamique ne peut que subsister à minima, si ce n'est proliférer.
Alors ça nous amène justement à la deuxième partie de ce débat. Est-ce que finalement, la meilleure réponse contre l'État islamique, ça ne serait pas une réponse plutôt que militaire, mais plutôt sociale, économique et politique? Est-ce qu'il n'y a pas des réponses à apporter à ce défi que suscite ce mouvement que vous appelez un mouvement révolutionnaire, hein, Arthur Kenney? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'essayer d'aller justement répondre à ce défi-là que pose l'idéologie de l'État islamique?
Ça, c'est évident, mais c'est une réflexion globale qui touche toutes les sociétés. Je rappelle qu'en France, on compte aussi un certain nombre de personnes qui sont sensibles à cette idéologie, plusieurs milliers sans doute de personnes qui sont sympathisants. Ça ne veut pas dire qu'ils vont mettre des bombes demain dans le métro, hein. Ça veut simplement dire qu'ils sympathisent avec l'idéologie djihadiste. Ce n'est pas exactement la même chose, mais néanmoins, c'est une idéologie qui a une subsistance aujourd'hui qui existe et qui a un continuum dans beaucoup de pays dans le monde, y compris les pays occidentaux. C'est un défi à la notion démocratique des États, au fait des États-nations, etc. C'est un défi par rapport à beaucoup de choses qui structurent en fait les États par le monde et notamment les États occidentaux. Pour lutter contre cette idéologie-là, il faut répondre de manière démocratique. Ça veut dire notamment arrêter de soutenir des régimes comme le régime de Bachar al-Assad, tout simplement, qui ne sera jamais une réponse possible au défi de l'État islamique, puisque lui-même est un État antidémocratique qui massacre sa population à loisir. L'Irak est un cas différent, mais un peu sensiblement le même, c'est-à-dire un État qui a du mal à représenter sa population dans sa globalité. Je ne parle même pas de l'Égypte, on en a parlé, 70 000 prisonniers politiques, une répression effroyable, des frères musulmans massacrés, on s'en souvient à l'été 2011, etc., etc. Donc c'est aussi ça, en fait, qui est la première réponse qu'on peut apporter, c'est-à-dire arrêter de soutenir des régimes que je qualifierais de très répressifs de manière très grossière, qui sont dans des États catastrophique du point de vue sociétaux, ce serait la première mesure à adopter de la part d'États comme le nôtre, la France et les États occidentaux.
Arthur Kenney, vous pensez que on peut répondre de manière concrète justement aux défis social, politique, économique que pose l'État islamique?
Tout à fait. Si l'État islamique propose une matrice révolutionnaire transnationale, c'est avant tout les États qui produisent leurs propres djihadistes. La France produit ses propres révolutionnaires, militants de la cause du djihad. L'Irak, la Syrie, de même. Ce n'est pas un hasard si en Irak, actuellement, les grandes villes comme Mossoul, Kirkouk, Tikrit sont plutôt bien tenues. C'est parce qu'il y a une vraie retour structurel de l'État, des services publics, des modes de gouvernance, les écoles recommencent à fonctionner. Or, les zones rurales sont délaissées et, encore une fois, c'est là où l'État islamique se retrouve. On observe en Irak et en Syrie un basculement rural de l'organisation qui s'est repositionnée dans des zones en fait, où elle a des bassins de recrutement efficaces. Les moyens de lutter contre ça, on les connaît. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'acteurs sur place capables de le mettre en œuvre. L'État irakien est encouragé dans des voies souvent répressives par des solutions militaires poussives, ou préfère souvent bombarder les populations civiles pour accélérer les batailles plutôt que d'y trouver une vraie réponse.
C'est ce qui s'est passé à Mossoul.
Ce qui s'est passé à Mossoul, ce qui complique aussi la reprise de certaines zones rurales qui ont été où la décharge militaire a été beaucoup trop forte par rapport au palliatif social, économique, des structures qui étaient en fait délaissées depuis plus de 15 ans. On explique ainsi que des zones entières restent sous l'influence de l'État islamique malgré une reconquête territoriale.
Alors, il nous reste à peu près 2 minutes 30. Je vais vous poser une dernière question qui est peut-être, un peu naïve, mais est-ce qu'on peut finalement négocier avec le groupe État islamique? Est-ce que finalement, à un moment donné, s'ils s'affaiblissent, s'ils sont dans une situation un petit peu plus précaire, les pays occidentaux peuvent arriver à quelque chose, les régimes locaux peuvent arriver à quelque chose en discutant avec ce groupe-là?
De mon point de vue, absolument pas. C'est un groupe révolutionnaire, encore une fois, qui est dans une idéologie totalisante, qui cherche à transformer le système international et à son profit. Impossible de négocier avec des militants qui sont engagés de cette voie-là. D'ailleurs, eux ne voudront jamais négocier. En revanche, il est possible de faire pression, de négocier avec les segments de population qui balancent du côté de l'État islamique. On le voit en Syrie, les politiques tribales menées par les forces démocratiques syriennes visent justement à soustraire des confédérations tribales, des clans locaux, actuellement sous l'influence de l'État islamique. Cela est déjà fait, on l'observe en Irak, en Syrie, à maintes reprises. La politique américaine en 2010-2011 des Sahrawis pour lutter contre Al-Qaïda avait fonctionné. Et donc c'est une solution actuellement qui est déjà employée. En fait.
Pierre Puchot.
Oui, je suis tout à fait de cet avis. Surtout l'exemple qui vient d'être dit est le parfait exemple. L'État islamique est né, on va dire dans son ancienne forme vers 2006. Il a été régulièrement mis en défaite et mis en minorité. Il a explosé à partir du moment où ça a été un chaos absolu en Syrie. Donc on a et qu'il a eu une potentialité de s'étendre. Donc on a été aussi capable dans des États comme l'État irakien de diminuer son influence et de le contenir. Il faut bien se rendre compte que c'est le projet global de l'État islamique qu'il faut combattre et non pas simplement des petites factions disséminées ça et là. Une des manières de le combattre, c'est aussi de rapatrier les enfants de djihadistes, les femmes de djihadistes, certains djihadistes, pour appliquer une justice réelle et montrer que le modèle démocratique fonctionne face à la proposition qui est faite par l'État islamique.
Merci beaucoup Pierre Pichot, écrivain et journaliste indépendant, auteur d'un nouvel ouvrage qui vient de sortir, Islam et politique aux éditions Perrin. Merci également à Arthur Kenney, docteur en sciences politiques et auteur de Syrie, anatomie d'une guerre civile édité par le CNRS. Et bien sûr, merci à vous, auditeurs de RFI. Passez une excellente soirée à l'écoute de la Radio du Monde.